Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire. Et aujourd'hui, on va vous parler de La Grande Coïncidence, événement créé par Olivier Bron et Simon Liberman. Ils nous parlent de l'édition 2024 depuis le Studium à Strasbourg. Ils sont au micro de Fred Michel.
Bonjour Olivier Bron.
Bonjour.
Bonjour Simon Liberman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ma bulle depuis Strasbourg, depuis le Studium. Aujourd'hui, on va parler de 2024. Alors 2024, pas l'année 2024, mais la maison d'édition 2024. Alors au départ, c'était un pari d'exister jusqu'en 2024. Maintenant, ça y est. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis toutes ces années ?
Ouais, donc on a monté la maison d'édition à deux, Simon et moi, il y a 14 ans maintenant, c'était en 2010.
Et demain, c'était hier. Je reprends une phrase.
Avec un peu cette idée, on sortait d'années de fanzina, de micro-édition, dans des collectifs comme ça, avec des copains. Et au départ, un projet qui était assez flou, on ne savait pas exactement ce qu'on faisait en montant une maison d'édition. Et le projet a quand même mis quelques années à la fois à se structurer, puis surtout aussi à se formuler, se dire on avait envie de travailler avec un diffuseur parce qu'on voulait aller voir un peu comment ça se passait d'amener un livre en librairie. Et puis les livres ont marché, et quand même plus que ce à quoi on s'attendait. À partir de là, et vu qu'on y passait tout notre temps, il fallait formuler un projet professionnel autour. Donc ça a mis, je dirais, 4-5 ans quoi, avant qu'on se dise, en fait, ça va devenir un métier, allons-y. Et après, il y a encore 4-5 ans de travail et de cravache pour réussir à faire un outil fonctionnel quoi. Et c'est devenu un peu une marotte quoi. 2024, si on tient jusque là, c'est pas mal.
Je vais reprendre d'ailleurs ce que vous aviez dit, vous me corrigez si je me trompe. En 2024, il sera temps de se retirer, de faire un bûcher de tous nos stocks, de s'en aller vers le cimetière des éditeurs. Et vous aviez peur de devenir des vieux installés dans des beaux bureaux avec des fauteuils en cuir. C'est vrai ?
On est vieux en tout cas.
Nos débuts ont été marqués par la micro-édition. Donc, on était là à vendre nos fanzines en festival et on avait un peu le plaisir de voir des éditeurs indépendants, ou pas indépendants d'ailleurs, bien installés en tout cas, qui faisaient le tour un peu des fanzines et puis qui nous draguaient. En fait, on les voyait un peu comme des gros nazes. Mais maintenant, on a rigolé. Simplement là, on arrive à un moment, on a tous les deux 40 ans. Et c'est vrai que j'ai un petit frisson à chaque fois que je passe au spin-off à Angoulême, dans ces festivals où je me dis effectivement les rôles se sont un peu inversés. Logiquement, il devrait quand même y avoir des structures éditoriales plus jeunes qui devraient émerger. Ça serait quand même le plus logique.
Moi, je voulais qu'on parle de la ville de Strasbourg parce qu'elle a quand même une grande importance dans votre histoire, dans l'histoire de la maison d'édition et aussi dans votre parcours.
Ouais, alors c'est vrai que Simon et moi, on s'est rencontrés à Paris où on s'est retrouvés ensemble à l'école Estienne en sortant du bac. Donc, on a fait 3 ans là-bas. D'abord, autour de l'illustration à l'école Estienne. Et à l'époque, il y avait peu d'écoles de toute façon où l'enseignement était assez ouvert à la bande dessinée. Il y en avait 3-4 comme ça qui étaient assez bien identifiées. Et celle qui nous faisait envie, c'était Strasbourg. Donc, c'est pour l'école des arts déco qu'on est arrivé ici. Et c'est vrai qu'on y a rencontré toute la colonne vertébrale du catalogue. Tous les gens qui nous ont fait confiance au départ pour démarrer et sortir les premiers livres, les Léo Marais, Simon Roussin, Mathias Picard, Donatien Marie, tout ça, c'est des gens qui étaient, Sophie Guérive aussi, c'est des gens qui étaient avec nous aux Arts Déco. Et de fait, une fois que l'école s'est terminée, on a pas mal d'amis qui ont déménagé, qui sont repartis un peu ailleurs. C'est le moment où la dynamique collective s'est soufflée un peu et c'est le moment où nous deux, ayant envie de continuer l'édition, on s'est dit on va monter une structure et puis c'est devenu 2024. Et la question à un temps s'est posée de se dire est-ce que nous aussi on reste à Strasbourg ou est-ce qu'on va ailleurs? Et puis finalement, c'est vrai qu'ici on est dans une dynamique qui est hyper stimulante. Il y a Central Vapeur à côté, qui est une association qui organise un festival qui amène beaucoup de vie autour de l'illustration, autour de l'image. Il y a beaucoup d'illustrateurs, d'auteurs, d'autrices avec qui on travaille, qui ont fait l'école ou qui sont restés à Strasbourg après. Et petit à petit, il y a aussi eu une prise de conscience de la ville, qui avait ici un vivier important. Et c'est vrai qu'il y a des relais maintenant. On est assez bien soutenus, on est assez accompagnés. Il y a des moments comme ça de visibilité pour l'image avec les rencontres d'illustration, le Festival Central Vapeur. Et puis cette année, Strasbourg, capitale du livre, la grande coïncidence, quoi.
Exactement.
D'accord avec toi. Après, tout ça, c'est quand même dans le sillage des arts déco, enfin de la IR. Et par contre, c'est vrai que nous, donc on est effectivement dans cette filiation. Et par contre, on arrive là maintenant en 2024 où il y a toute une restructuration de la IR où il n'y aura plus de première année. Enfin, du coup, ils vont plutôt recruter à partir de profils plutôt post-école privée. Ce qui va modifier quand même pas mal, je pense, l'approche un peu des étudiants qui seront recrutés, qui n'étaient franchement pas hyper diversifiés déjà. Mais là, effectivement, ça va être quand même... c'est à l'échelle nationale aussi, de toute façon, ce qui se passe avec énormément d'écoles qui suppriment des sections, que ce soit graphisme, des premières années, etc. Du coup, là, il y a un relais vers les écoles privées qui semble assez naturel, mais qui, du coup, risque de changer quand même pas mal déjà la sociologie des... ce que vont devenir les illustrateurs, et ça risque aussi de tarir un peu, en fait, j'imagine.
D'appauvrir
dans tous les cas, de toute façon, ce que seront les promotions, effectivement, d'étudiants, puis d'illustrateurs. Donc, c'est un peu tôt pour savoir ce que ça va produire, mais c'est vrai que c'est pas très engageant.
Non, c'est vrai, il y a un virage qui est en train d'être pris partout au niveau des écoles d'art et qui n'est pas très enthousiasmant, quoi.
Pas très réjouissant.
Non, c'est même carrément effrayant. Ouais.
Alors justement, on va revenir au tout début de 2024. Donc vous n'étiez pas du tout, vous n'aviez pas de pied dans l'édition. Comment on se lance dans l'édition quand on n'est pas du tout dedans?
Comme on l'a un peu évoqué avant, c'est vrai qu'on faisait des amis pendant les études. On commence par faire un fanzine, 50 exemplaires. C'est imprimé en numérique. En général, on venait y mettre une couverture qu'on avait fait à l'atelier de sérigraphie. Et voilà, des petits tirages avec des techniques artisanales, du pliage manuel. Voilà, on a graffé tout ça dans la cuisine. Mais l'idée de se confronter au fait de montrer son travail à des gens, c'est quand même hyper formateur pour... Mais c'est vrai que notre première intention, c'était plutôt une intention d'auteur, de se dire on se regroupe ensemble et puis on va montrer notre travail. Pour montrer le travail, il y a ces outils-là qui sont ceux de la micro-édition. On fait des petits livres, on fait des magazines ensemble. On va en festival, on tient un stand, on les défend, on va les poser chez quelques libraires comme ça, dont on sait qu'ils sont curieux et ouverts à ce type de production-là. Et c'est vraiment là qu'on a construit à la fois notre envie de devenir éditeur et puis aussi notre façon de se poser la question de l'objet. Il y avait cette idée-là au début nous, on a fait les arts déco en se disant on veut être auteur. On s'était pas projeté éditeur, même en sortant de l'école, c'était encore très flou. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moment de nous engager dans les études, c'était un métier qui n'existait même pas dans ma tête. On ne savait pas ce que c'était. Mais par contre, on avait il y avait cette idée présente que si on faisait de la bande dessinée, ce qui était notre intention profonde, notre œuvre, ce serait jamais la planche sur le bureau, mais le livre qui est ensuite diffusé, qui est en librairie, qui va jusqu'à un lecteur. Et c'est cette envie-là qui nous a guidés vers la micro et puis ensuite l'édition, de se dire si l'œuvre c'est le livre, comment ça se fabrique? Qu'est-ce que c'est une machine offset? C'est quoi les possibilités de l'impression? La majorité des bouquins sont imprimés en quadrichromie. Ça, ses avantages, ça aussi plein de contraintes. Quelles sont-elles? Il y avait cette envie comme ça de comprendre tout le process industriel derrière pour jouer avec, en fait. Et c'est vrai qu'on a très vite, dès les premiers bouquins, ça a amené à ce qu'on utilise plein de Pantone, qu'on aille changer des encres en machine, qu'on se dise parce que ça a un impact direct sur la façon dont on produit l'image à la source, quoi, de savoir comment elle est imprimée.
C'est vrai, mais je pense aussi y a quand même une culture dans la BD qui se prête à ça. C'est-à-dire que derrière, avant nous, il y a eu l'assaut et que ce soit même Futuro, etc., où les auteurs de BD ont toujours, j'ai l'impression, plus fait confiance à des auteurs de BD qu'à des entités éditeurs qui auraient, enfin, sorti nulle part, entre guillemets. Là où en littérature, c'est pas du tout la même configuration. J'ai l'impression que même le paysage, même en jeunesse, en litté, en fait, il y a plein d'éditeurs indépendants que je respecte, mais qui ont quand même un cœur de catalogue, qui sont plus portés vers la traduction ou les textes anciens, on va dire, réédités. Mais j'ai l'impression que le cœur de la création se situe plutôt chez les gros. Là où en BD, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que le cœur de la création intéressante, etc., se situe vraiment dans le... De notre bord, à nous.
Et après, vous êtes passé à quelque chose de plus, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, de plus industriel, de plus professionnel. Et comment s'est fait le basculement? Parce que même maintenant, là, vous êtes plus nombreux à travailler au sein de 2024.
Ouais, tout à fait. On est... ben, l'outil, c'est vraiment un outil, la maison d'édition, quoi, qui s'est structuré, qui est de plus en plus étoffé et qui est de mieux en mieux capable de porter des bouquins jusqu'à des lecteurs. Mais après, quand même, quand on se retourne et qu'on regarde tous les bouquins qu'on a fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait... évidemment, on a évolué dans nos goûts, il y a des choses qu'on fait différemment maintenant, mais sur la façon dont on choisit les projets, j'ai pas l'impression qu'on ait fait un chemin colossal. C'est resté quand même assez cohérent. La sensation qu'on a toujours à peu près la même impulsion sur y a un livre qui nous plaît à nous deux et ce qui arrive dans le catalogue, c'est le croisement de nos univers à Simon et moi, et on se dit on se retrouve sur ce livre là on a envie de l'accompagner, on voit ce qu'on a à y faire dessus, et par contre autour, maintenant on est capable de mobiliser vachement plus de leviers, d'outils, à la fois sur la façon dont on en parle au libraire, mais aussi à la presse. Voilà, comment est-ce qu'on organise tout ce qui se passe justement entre l'auteur et le lecteur pour essayer d'avoir l'écho le plus ample possible, parce que c'est toujours ça l'enjeu, quoi, c'est de se dire c'est quand même un métier qui est long et solitaire, celui de faire une bande dessinée. Bon, mais si on le fait, c'est parce qu'on a envie de parler à des gens, et le relais, celui qui doit faire l'écho, c'est la maison d'édition. Donc, l'outil, on essaye de le construire pour qu'il soit efficace pour ça, quoi. Il y a vraiment cette idée-là.
Enfin, il y a quelques effets conjugués. C'est fait qu'on a quand même compris aussi un peu comment communiquer. On a construit un réseau de libraires, etc. Après, effectivement, il y a eu quand même la chance que certains projets aient quand même attiré la lumière sur le reste du catalogue. Parce que c'est vrai que tous les premiers livres, c'est pas forcément des livres qui marchent très bien. En fait, tous les premiers Simon Roussin qu'on publie, ils atteignent péniblement les 1000 exemplaires au bout de, je sais pas, X années. Là où il y avait quand même effectivement un écho médiatique, mais qui reste quand même très local. Avec l'effort, les années, etc., c'est des images qui seront un petit peu, qui vont se diffuser un peu dans le grand public et qui vont être de plus en plus acceptées. Bon, ça, c'est... Et par ailleurs, il y a aussi des projets un peu qui pouvaient sortir nulle part et qui sont mis à cartonner tout de suite, comme Léa Muraviec avec Le Grand Vide. Alors, ça, c'est vraiment le genre de surprise assez incroyable. Et
y a toujours un peu un jeu d'élastique comme ça, où il y a des auteurs, la maison d'édition est plus connue, nous on est peu connus du grand public, et puis c'est peu là-dessus qu'on travaille. Par contre, on travaille pour avoir un écho chez des libraires. Voilà, on a vraiment construit la maison autour de la librairie, et l'idée, c'est qu'il y en ait plein, qu'ils sachent qui on est, qu'ils fassent attention au catalogue. Donc on est capable d'offrir à un auteur qui démarre un écho médiatique plus important que celui qu'il aura lui. En tout cas, on est capable de le porter chez des libraires dont on sait qu'ils vont s'intéresser à ce qu'on fait. Mais après, il y a à l'inverse tout un tas d'auteurs qui, eux, ont une aura plus grande que la nôtre, et on passe notre temps à jouer là-dessus avec des gens que nous, on est capable de porter, et puis qui nous dépassent, et puis ensuite qui portent la maison ailleurs. Et c'est vrai que c'est complètement ce qui s'est passé avec Simon ou Roussin, où on démarre avec lui. Alors en plus, on s'est vraiment construit en même temps, quoi. Et jusqu'à un moment où il fait des vivants, ça cartonne, il a son prix à Angoulême, et tout d'un coup, c'est lui qui a plus d'écho que nous, et on peut prendre sa roue et tirer avec nous, pour le coup, les autres auteurs qui sont derrière. Et ça, c'est assez, c'est ça qui est gratifiant dans le fait de bosser avec des gens sur du moyen long terme, c'est qu'il y a vraiment des parcours qui se construisent en même temps et qui avancent pas toujours au même rythme. Pendant longtemps, la maison d'édition, je dirais qu'elle a une marche qui est beaucoup plus régulière parce qu'elle est construite à chaque fois sur plein de livres. Donc voilà, on avance à un rythme assez régulier. Et par contre, les auteurs, ça va être beaucoup plus des fulgurances. Oui, il y en a avec qui on va construire pendant 2 livres, 3 livres, 4 livres. Voilà. L'idée de faire un peu infuser les images à droite à gauche jusqu'au moment où ça prend. Et par contre, une fois que ça prend, bah, ça prend plus loin que la maison. Quoi.
Et justement, vous avez changé votre rythme de parution depuis le début ?
Ouais, alors c'est un peu d'ailleurs un petit souci. C'est que, logiquement, on a démarré à 1 livre par an, puis 2, puis 4, puis maintenant 12. Du coup, le truc, c'est que pour que le catalogue vive, il faut aussi, puis parce qu'on en a envie, accueillir des nouveaux auteurs. Dans la mesure où on a peu de raisons de se friter ensuite avec nos auteurs, ça, ils continuent à en faire chez nous. Et du coup, il y a un effet exponentiel, enfin cumulatif, où la seule issue, c'est soit la mort des auteurs, soit en fait, je ne vois pas trop d'autres choses. Enfin, effectivement,
c'est un truc qui est délicat.
Ou de toute façon, la structure, tant qu'elle est économiquement viable, finalement, on arrive toujours à s'adapter, à embaucher à nouveau. On est passé de un graphiste à 2, ce genre de choses. Il y a peut-être un moment où on aura plus ça évolue effectivement vers la surenchère de livres, moins on est porté à faire de l'édition, mais plus on est porté à devenir chef d'entreprise en fait, parce qu'effectivement on augmente ce qu'on appelle la masse salariale, ce qui est un très joli mot, et effectivement ça fait partie quand même des soucis. Donc je sais pas, il n'y a pas vraiment d'issue à ça, mais c'est vrai que c'est bien qu'on reste aussi à une échelle
humaine,
voilà. Et en même temps, on est comme une sorte de un couple, papa et maman lapin, avec des milliers de lapins, on les aime tous.
Une famille, vraiment,
voilà.
D'autant que tant qu'on peut-être qu'on arrive à transformer les goûts du lectorat comme ça à grande échelle. Mais en vrai, dans la mesure où on fait toujours un peu le même genre de livre, il y a quand même une... On sait qu'à un moment, la librairie n'est pas capable, globalement, dans son ensemble, d'en absorber plus de un par mois ou un tous les 2 mois. On fait des livres qui demandent quand même d'être lus par les libraires, d'être défendus, d'être accompagnés. Et ça n'a pas de sens si on augmente indéfiniment le nombre de sorties. C'est juste les livres qui se mangent entre eux. Et puis, dans ce cas-là, ça n'a plus de raison d'être de faire une maison comme ce qu'on fait. Hein, autant... plus on grossit, plus on se rapproche d'un modèle duquel on a voulu se détacher à la base. Donc,
si on décide de plus faire que les auteurs historiques, on devient une maison d'édition de vieux cons. Enfin, il y a quand même. Du coup, c'est vrai que
on revient au vieux.
Voilà. Du coup, l'équilibre. Ça fait partie des questions sans réponse pour le moment, mais présentes.
Olivier, tout à l'heure, tu parlais de cohérence dans les publications. Ça nous amène à la ligne éditoriale. Alors, vous, c'est principalement la fiction, c'est ça ?
Ouais. On a mis quelques livres avant de formuler quelque chose. Initialement, on a monté la structure autour de 2 projets, qui étaient Les Derniers Dinosaures de Donatia Marie et Didier Decalant, et puis Jim Curious de Mathias Picard. Qui étaient donc des camarades de fanzine et de promo. On était vraiment dans les mêmes années. Et c'était des projets de diplôme dont on voyait que ça faisait des livres qui nous faisaient envie. Et en même temps, où on se formulait collectivement qu'on ne voyait pas bien chez quel éditeur ça pouvait atterrir dans le paysage à l'époque. On disait, autant Mathias Picard faisait en même temps un projet sur sa voisine qui s'appelait Janine, un projet de rencontre comme ça. Et ça, c'était... évident que ça collait bien avec le catalogue de l'asso, et d'ailleurs c'est l'asso qui l'a fait. Et Jim Curious, par contre, c'était beaucoup moins simple. Et ça faisait partie des choses qui nous ont fait penser qu'il y avait quand même une place qui existait. Quoi. Et bref, on a fait ces 2 bouquins-là. Simon Roussin est arrivé aussi tout de suite autour, qui faisait du fanzine pas loin. Et rapidement, on s'est quand même formulé que ce qui nous amusait, là, c'était de nous écarter on a plutôt construit la ligne en faux par rapport à ce qu'ont été les grands étendards de l'indé sur la génération d'avant nous, donc l'autobiographie, le reportage, la BD du réel, comme ça, qui a permis à un moment d'ancrer la bande dessinée dans d'autres champs que ce qu'était la BD mainstream de l'époque. Et c'était très bien, mais nous, finalement, lecteurs, dans les années 2000, ados, on a lu de la même façon des gros machins, grosse cavalerie et de chez les gros, et Comics 2000 qui était sur la même table chez notre libraire. On faisait peu de différence de famille là-dessus, et arrivé au moment où nous, on avait envie de faire de la bande dessinée, et je dis nous et les auteurs de la génération... de notre génération, qui ont vraiment constitué la colonne vertébrale du catalogue. On avait des envies d'auteurs et d'autrices, en tout cas de faire des bouquins engagés artistiquement, et puis en même temps, en ayant un peu marre de l'autobio et en allant vers la fiction et réinvestir ces champs-là, la BD de genre, mais avec une intention, quoi. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve en même temps chez Misma, ils ont à peu près notre âge et on a un parcours qui est assez cousin chez Julien Magnani. Il y a eu comme ça une vague d'éditeurs qui se sont montés dans les 5 ans avant, après nous. Il y a quand même quelques maisons maintenant qui ont une vraie existence et qui appartiennent à ce même mouvement générationnel. Il y a eu ce bouquin de Fred Augelot là sur...
Second souffle,
c'est ça, sur justement ces maisons-là qui ont à peu près le même âge, et il y a quand même cette intention commune, je trouve, derrière, souvent, de se dire on réinvestit la fiction avec et la couleur et des grands formats, et se dire on peut faire autre chose aussi en termes de façonnage par rapport à ce qu'étaient les standards de l'indé, tout en faisant de la bande dessinée d'auteur et en essayant d'aller chercher quelque chose artistiquement, quoi. Et là, on voit passer plein de projets qu'on ne fait pas, nous, dans les projets qu'on reçoit, parce qu'on se sent moins, on raisonne plus difficilement avec. Et en même temps, il y a clairement une famille qui est en train d'émerger. Enfin, Simon en parlait tout à l'heure, il y a forcément un moment là où ça ne devrait pas tarder, où il y a tout d'un coup une nouvelle génération d'éditeurs qui arrive pour porter des trucs que nous, on n'est plus capable de faire, quoi.
Et dans votre catalogue, la frontière entre bande dessinée et livre illustré, elle est parfois ténue. Je pense par exemple à Prisonnier des Glaces ou à Éther qui est sorti récemment de Étienne Chaise.
Bah ouais. Non, c'est sûr. En 2019, on a fini par créer un label jeunesse. Aussi pour répondre on avait des bouquins des fois qui étaient un peu perdus, quoi. Et qui, voilà, notre diffuseur était plutôt. Les belles lettres sont vraiment implantées dans la bande dessinée. Et puis du coup, ce qu'on faisait globalement, ça arrivait au rayon BD. Et là aussi, c'est une histoire d'âge et de vie où on se met à avoir des enfants, donc on se met à fréquenter les rayons jeunesse, on se met à en lire plus, à en acheter. Ça donne des envies et à nous et aux auteurs dont on est proche. Donc le label jeunesse, il s'est créé de façon assez évidente à un moment. Mais la question s'est posée de bouquins qui dataient d'avant, de les repasser ou pas sur ce label-là. Où c'est vrai que Jim Curious, finalement, il a fini par être floqué 4048 là, sur les dernières rééditions. Tu parlais plutôt peut-être de livres illustrés pour adultes, et c'est vrai que formellement, ce qui nous intéresse, c'est de raconter une histoire avec des images. Puis après, le nombre de cases dans une page ou dans un livre, peu importe. Le tout est de trouver le bon rythme pour la bonne histoire. Et puis derrière,
ce qui compte, c'est l'expérience de lecture.
Ouais. Tu vois, ça, quand tu parlais d'Étienne et d'Éther tout à l'heure, ça n'a vraiment aucun sens de mettre ces images en petit. Et même au-delà de ça, en plus, c'est marrant parce qu'Étienne Éther, il est sorti dans un format qui fait à peu près 30x40, enfin un petit peu moins. Et autant on s'était dit au début, on ne fait pas de collection, on va à chaque fois chercher un objet autour du livre et on prend le temps d'y réfléchir avec l'auteur. Parce qu'on ne voulait pas forcer des projets, tordre un livre qui existe pour le faire rentrer dans une collection qu'on aurait conçue avant. Par contre, à un moment, on avait quand même aussi envie de très grands formats et on a monté cette collection-là en partant du format le plus grand qui est faisable en reliure actuellement, simplement. Et par contre, pour déclencher des projets pour ce format-là, et Étienne, on était tout de suite allé le voir en lui disant « Bon, on fait ces grands livres. Tes images, on a envie de les voir en grand, elles ont besoin de place. » Et ça avait donné Helios dans un premier temps, qui est sorti en 2016, comme ça. Il y a eu un livre de Clément Vuillet aussi, et Prisonnier des Glaces, dont tu parlais, de Simon Roussin. Où là, pour le coup, à chaque fois, c'est plutôt nous qui sommes allés voir des gens en disant « Bon, on fait ces livres, ils font ce format-là, et on aimerait bien voir tes images dedans. » Et ça, du coup, ça se prête assez naturellement à aller sur des pleines pages, des grandes doubles, et utiliser le format pour aller vers des grandes images, quoi.
Rétrospectivement, il y a quand même... on démarre en 2010 à un moment où les formats sont plutôt formatés. Donc, quand on sort les bouquins qu'on sort, donc les derniers dinosaures, ça dénote vraiment par tous les aspects. Le format, la technique d'impression, l'usage des Pantone, le sujet, parce que c'est un livre illustré pour adultes. Enfin, tout est un peu bizarre. Maintenant, c'est quand même... Ça serait encore un peu ovni, mais le... Alors, est-ce que c'est notre influence à nous ? Bien sûr. Non, mais je pense qu'il y a quand même, en partie, on fait partie aussi de ce mouvement. Mais tout le monde s'y est mis à faire éclater les collections, les formats. Alors, il y a l'usage immodéré du Pantone fluo qui remplace le rose, qu'on a, nous, pas mal utilisé, qui maintenant est diffusé à peu près dans la moitié des bouquins jeunesse actuellement. C'est un petit peu rageant, ça, en fait.
On l'avait trouvé ailleurs aussi.
On l'avait trouvé ailleurs, mais c'est nous qui avons vraiment... Non, du coup, effectivement, il y a un mouvement général où, finalement, là où on se distinguait, c'est un petit peu moins le cas. Il y a quand même, effectivement, des bouquins un peu hors normes qu'on sort. À mon avis, ils n'existeraient pas sous cette forme ailleurs, encore actuellement. Mais c'est vrai que c'est quand même un questionnement, en fait, qu'on a. C'est comment... trouver un peu des pas de côté qui n'auraient pas été vus trop ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a encore comme... qu'est-ce qu'on a proposé aussi aux auteurs comme écrin ? Enfin, c'est même pas tant un écrin, c'est-à-dire que c'est aussi... c'est des façons de penser différemment les projets, effectivement, le fait d'être précis dans la fabrication, etc., qui déclenche aussi un peu des idées, pas que formelles, mais même de contenu, en fait. J'ai l'impression.
Simon, tu l'as évoqué brièvement tout à l'heure, vous avez aussi développé une collection patrimoniale.
Ouais, alors ça s'est passé en deux temps, je dirais. Enfin, il y avait quand même l'idée dès le début, mais portée d'abord...
On ne savait pas sur quoi.
Ouais, dès le début, enfin, s'il y avait un projet là de... C'est quoi, un laiton ?
Ouais.
Alexas Tonkus. Alors bon, c'est de la BD de strip super nulle des années quoi, 30 ? 20 et 30. Mais bon, c'est assez touchant. Peut-être qu'on y reviendra un jour. Mais bon, bref, ça n'a rien donné pour le moment. En revanche, j'étais tombé par hasard en fouinant à la bibliothèque de quartier à Strasbourg. Je vois dépasser un grand bouquin... édité quoi, au début des années 2000. Donc, c'est les désagréments d'un voyage d'agrément de Gustave Doré, donc dans une édition épuisée depuis, et qui était rangée soigneusement au rayon alsatique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'alsatique, ce sont les bouquins de choucroute, en fait. C'est essentiellement tout ce qui est attrait à la région Alsace. Donc, entre je sais pas, le Kouglof et... je sais pas, les paysages du Sungo au sud, voilà, il y avait ce bouquin là du coup, ce qui, enfin, rien que dans la façon de le ranger, ça montrait qu'il y avait quand même un petit souci un petit souci patrimonial. En fait, moi, en l'empruntant, je m'attendais à tomber sur une sorte de curiosité un peu genre, curiosité, mais essentiellement un peu pénible à lire, probablement
folklorique.
Et en fait, c'est vachement drôle, en fait, comme histoire. Ça se lit vraiment bien. Il y a quand même quelque chose d'hyper frais dans la narration il est complètement libre, en fait, Gustave Doré, quand il dessine cet album, alors qu'il a 21 ans. Et c'est vraiment chouette. Il n'y avait aucune espèce d'hésitation sur le fait qu'il fallait effectivement rééditer. Et en tirant le fil, on est tombé sur ses autres ouvrages. Donc, on a réédité aussi l'histoire de la Sainte-Russie dans la foulée, puis un peu plus tard, les travaux d'Hercule. Et ça démarrait par là. Puis après, effectivement, on est tombé aussi sur d'autres albums qui valaient le coup et sur lesquels, effectivement, on a entamé le travail, qui est un travail beaucoup plus long que ce qu'on peut faire sur les auteurs vivants. En fait, c'est assez laborieux, enfin c'est intéressant, mais effectivement sur ces ouvrages-là, on bute déjà sur un des premiers écueils qui est le manque d'intérêt scientifique, c'est-à-dire que sur l'ouvrage, par exemple, qu'on avait fait, Géry. Donc, c'était les premières BDSF parues dans la presse jeunesse des années début 1900. Bah, y avait juste une notice qui devait traîner sur Internet, aucune page Wikipédia et, en fait, aucun spécialiste du sujet. Du coup, c'est vrai que c'est plus dur de démarrer sur un travail lorsqu'on n'a même pas le vrai nom de famille, on n'a pas la date de mort. Du coup, effectivement, quand on demande des images iconographiques à la BNF, il faut déjà aussi prouver que la personne est morte depuis 70 ans, sinon il faut payer des ayants. Enfin bref, en tirant le fil, effectivement, on est arrivé à effectivement, sortir le bouquin, mais il a fallu qu'Olivier appelle tous les registres en fait, d'arrondissement pour retrouver la date de mort de... Ouais, tu as dû faire
une enquête généalogique, carrément.
Une enquête généalogique.
Mais on a eu de la chance parce qu'il s'appelle Mousselet et c'est un nom qui est très peu répandu, en fait. Sinon, on n'aurait pas trouvé. Mais parce que le nom est peu répandu et qu'il avait été militaire, et que les militaires gardent quand même pas mal leurs dossiers. L'un plus l'autre, voilà, on a fini par recouper, trouver... J'avais fini par identifier 3 ou 4 arrondissements possibles pour sa dernière adresse. Et puis là... En contactant les mairies, ils ont fini par le retrouver sur des registres de décès. Mais bon, c'était beaucoup de chance. Et puis un travail qui est encore un peu différent de celui qu'on est censé faire. Mais après, le patrimoine, c'est ça qui est marrant aussi. C'est aussi pour ça que c'est long. C'est des bouquins sur lesquels c'est nous qui sommes les moteurs. Si on bosse sur autre chose ou qu'on s'arrête, ben, y a personne qui nous tire par la manche pour dire « J'ai fini mon bouquin, j'aimerais bien qu'il sorte ». Donc là, il y a eu une grosse pause autour du Covid. C'est tous les bouquins qui ont été repoussés à plus tard. Et puis c'est chaque année, quand on a trop de choses à faire, c'est toujours le livre qui est repoussé à plus tard. Là, typiquement, donc on a abouti l'automne dernier à un énorme projet patrimonial sur lequel on bosse depuis... ça faisait pas loin de 10 ans que c'était dans le bureau, quoi. Et c'était un livre chaque année. C'était « Oh, bon, on le fera l'année prochaine, quoi. » 850 pages, il y a 500 pages d'images. Il y avait des raisons pour qu'on retarde un peu le moment d'attaquer la montagne, quoi. Mais...
Justement, on va rester sur l'idée de repousser. Parce que vous êtes au départ auteur, mais vous avez encore le temps d'être auteur et de faire des bandes dessinées, de dessiner.
Eh ben, Simon sera mieux placé que moi pour répondre là-dessus, puisque lui, il a moins renoncé. Donc, il s'est...
Toi, tu as plus renoncé.
Moi, j'ai moins de frustration, en tout cas, par rapport à ça. Il y a deux choses. Il y a à la fois le fait de voir quotidiennement, intimement, ce que c'est pour un auteur de porter le livre, avec tout ce que ça peut avoir d'affreusement déprimant quand ça ne se passe pas comme on a envie. Et de voir se remettre l'ouvrage pendant 2 ans, 3 ans, avant d'avoir un nouveau projet qui sort et qui permet. Nous, dans l'édition, on est quand même... Bon, mais quand on est porté toujours par 3, 4, 5 projets en même temps, et voire plus si on voit un peu plus loin. Et du coup, autant les succès que les échecs sont faciles à digérer. Parce que pour un auteur, même un gros succès, c'est dur à digérer aussi. Et ça peut être complètement paralysant pendant 1 an et demi avant de se remettre au boulot. Bon, ça, nous, on le vit de façon... Déjà, on a plus de distance quand même par rapport à l'œuvre, même si on s'investit sur les bouquins. C'est pas exactement la même chose. Et à chaque fois, c'est tempéré, c'est modéré par le projet qui arrive après et dans lequel il faut s'investir aussi, dont la vie va être différente. Voilà, si on est très content si on a un gros succès, mais on passe vite à quelque chose d'autre. Et à l'inverse, c'est dévastateur de se planter sur un bouquin, mais on a un autre livre qui arrive derrière et il faut s'y remettre. Pour un auteur, ça, c'est un temps qui est beaucoup plus long et des montagnes russes qui sont vachement plus violentes. Le fait d'y être confronté tout le temps, moi, je sais que ça fait partie des raisons qui me poussent pas violemment vers l'envie d'écriture, de dessiner. Je fais des petits fanzines de temps en temps sur lesquels c'est mesuré l'enjeu que j'y mets.
Toi, Simon, tu n'as pas renoncé alors ?
Non, alors j'ai sorti justement une bande dessinée l'an dernier qui s'appelle Le Talisman. Et effectivement, ça, c'est le fruit quand même d'une dizaine d'années, on va dire, de travail. Alors, 2024 nous a quand même pris un temps plein depuis bien 12 ans. Les deux premières années, peut-être, on était encore un petit peu à cheval. Mais effectivement, c'est une BD que j'ai un peu grappillée sur le... des bouts de temps ici et là, de soir, de week-end, mais que j'ai effectivement à un moment eu besoin de terminé. Du coup, j'ai pris une année sabbatique complète sur laquelle je continuais quand même à suivre les projets, mais c'était de loin. Et là, depuis mon retour d'année sabbatique, je suis à mi-temps, ce qui est cette année un peu théorique parce que je pense que je suis plutôt à mi-temps à 35 heures semaine, mais j'ai un peu gardé cette routine de travailler le soir, etc. Mais ce qui est un petit peu l'eau de pas mal d'auteurs de BD, faut quand même se dire que c'est quand même un métier pas forcément ingrat, mais c'est vrai que c'est laborieux au sens c'est pour accoucher d'une BD, il y a tellement d'étapes et puis c'est tellement long. Il faut avoir un petit peu le tempérament pour. Après, effectivement, le côté succès-échec, je suis un peu plus imperméable. Je pense aussi du fait d'être éditeur. J'ai un peu plus de distance par rapport à ça et un petit peu moins d'affect. Alors évidemment, je ne veux pas dire que ça me réjouit le fait que ma BD, je vois bien qu'elle ne cartonne pas, mais c'est ça ne me paralyse pas spécialement. Et puis, mon seul, on va dire, souci avec ça, c'est le fait de ne pas avoir assez de temps à y consacrer, on va dire. Mais effectivement, je vois aussi le fait que... c'est-à-dire que je m'épanouis à la fois dans la BD, travail personnel et l'édition, là où effectivement les auteurs qui n'ont que leur parc, leur œuvre... bande dessinée, illustration. Si ça n'a pas marché, ils ont l'impression que le suivant, les libraires aussi auront un a priori négatif. Ils auront l'impression de constamment marcher avec une merde de chien collée au basket. C'est pas forcément très gratifiant.
On va rester justement sur les auteurs parce que chez 2024, vous prenez soin. Du livre, vous faites des beaux livres, des beaux objets, et vous prenez soin aussi des autrices et des auteurs par rapport au droit.
Oui, après,
c'est important quand même.
C'est important. C'est important, mais il faut juste pondérer un peu. On n'a pas construit la maison en cherchant à révolutionner le modèle commercial du livre. C'est-à-dire qu'on travaille avec un diffuseur-distributeur et on travaille en librairie. On avait cette envie-là, nous, d'être en librairie. Ça nous paraissait être fondamental pour faire une maison d'édition. De bosser avec des libraires, c'est là, c'est le lieu d'échange des idées, c'est un endroit dans lequel on avait envie de vivre et d'exister. Donc, ça voulait dire passer par un diffuseur-distributeur, et ça veut dire finalement se conformer à un modèle qu'on n'a pas choisi. Et on se retrouve globalement au sein du modèle majoritaire à essayer d'écarter un peu les murs pour faire un peu plus de place, avoir une répartition de la valeur qui est un peu plus juste. Là où nous, on peut avoir une action, c'est-à-dire entre ce que gagne l'éditeur et ce que gagne l'auteur. Voilà. On est sur des droits d'auteur qui sont un peu plus élevés que ce qu'on trouve en général, mais après, sur des taux qui peuvent quand même se pratiquer aussi dans l'indé. En général, on est à 10% quoi, dans l'indé. Nous, on commence à 12%. Ça paraît rien, un ou deux points. En fait, c'est tout un modèle qui s'organise autour. Ça représente en gros... un à deux postes à l'année par an, nous, qu'on consacre aux droits d'auteur. Et d'ailleurs, la question pourrait se poser, est-ce que les livres ne seraient pas mieux défendus avec un poste dessus en plus? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, on a fait ce choix-là. Et honnêtement, on l'a fait au début sans trop se poser la question. On s'est dit, les autres font 10, nous, on va faire 12. Et puis, on a construit le modèle ensuite autour de ça. On n'a jamais remis ça en cause. D'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai parce que quand on a lancé le label jeunesse, on était un peu interrogatif sur des usages en jeunesse où tout le monde est à 6-8% max. Du coup, on s'est dit peut-être que le rythme du livre, que c'est adossé à quelque chose, soyons un peu plus prudents. Et on a commencé les premiers livres jeunesse sur une échelle 10-11-12. Et en fait, on voit pas du tout pourquoi les gens sont à 6% en jeunesse. Donc là, maintenant, on a tout rebasculé à 12. On a fait sauter ce truc-là je pense que ça, à la fois ça a un vrai avantage, c'est intéressant comme condition à proposer à un auteur. Ça veut dire aussi, ça fait longtemps qu'on rémunère les dédicaces, depuis avant que ce soit la grande mode, et c'est très bien que ce le soit. On essaye de répartir à chaque fois à peu près de ce qui nous paraît juste. On a conscience que le temps de travail de l'auteur n'est pas un temps gratuit. Après, on reste une petite structure. On l'est de moins en moins et on a de plus en plus les moyens de rémunérer ces temps-là. Mais on est encore en construction. Et c'est vrai que sur les avaloirs, on pourra toujours nous dire qu'on on n'est pas capable de donner en avaloir à un auteur de quoi lui financer son temps de travail pour faire le livre. On y travaille, peut-être qu'un jour ça viendra. Donc ça se construit. Et dans la mesure de ce qu'on peut faire, on essaye d'être juste. Mais bon, on est pas mal de petits éditeurs à réfléchir comme ça. Donc après,
cette grande coïncidence, comment elle va se conclure ou se poursuivre ?
Bah pour le moment, je sais pas, par un gros burn-out en décembre, là, on a prévu de tous mourir. Non, on va déjà aller au bout de cette année 2024. On est chez nous, là. Chaque fois que vous achetez un livre, il y a notre nom sur la couve, quelque part. Il y a une grande opé en librairie en ce moment. On a fait un petit jeu. Tout le monde nous dit que c'est pas un jeu. C'est vrai que c'est pas un jeu, mais c'est un jeu de cartes, formellement, dans lequel on vient piocher des anecdotes sur la maison d'édition et quelques images inédites. Enfin, voilà, un petit tout plein d'éléments autour de la maison qui est en librairie pour deux livres de chez nous achetés.
Des expositions aussi à Strasbourg.
Plusieurs expositions, donc une grande rétrospective, la grande coïncidence 2024 en 2024, qui est sur la terrasse du Palais Rouen, donc une expo d'extérieur qui dure tout ce mois-ci. Dans le Studium, donc à l'Université de Strasbourg, où on est actuellement, qui est la grande bibliothèque du campus, donc on a fait tout un tas d'installations autour de l'œuvre de Tom Gold. On a aussi une expo sur la mer à boire, un livre qu'on a fait avec Blutch dans le centre-ville au Cosmos. Et après, il y a donc ça dure en gros pendant tout le temps fort Capitale mondiale du livre jusqu'à fin mai. Les installations au Studium ici à l'université durent jusqu'en novembre. Et après, on va quand même aussi fêter la grande coïncidence avec les festivals qui nous suivent depuis longtemps, qui sont la garde rapprochée des gens qui nous ont toujours soutenus. BD Colomiers, Formula Bulla à Paris, Gribouilly à Bordeaux. On a comme ça un petit programme d'événements autour de 2024 en 2024. Et puis à la fin de l'année, ben on verra bien. Clairement, on ne va pas s'arrêter cette année. Il y a trop de projets déjà signés.
Vous n'allez pas splitter en 2025 ou vous appelez 2025.
Après, on fait partie d'une génération qui a connu Optique 2000 et Sport 2000 et ces trucs-là qui sont devenus ringards du jour au lendemain. Et t'as bien compris que ça nous travaille, la ringardise. Donc on essaiera de faire en sorte de ne pas l'être.
Expo de ringardise, justement, je reviens juste sur l'expo à la terrasse du Palais Rouen en ce moment, donc qui ouvre là. On se place en 2124 et ce sont des archéologues du futur qui découvrent les restes de la maison d'édition et qui du coup font des spéculations sur qu'est-ce que c'était l'édition, qu'est-ce que c'était l'édition indépendante, qu'est-ce que c'était que ces livres. Et c'est un peu une sorte de rétrospective un peu pas steampunk mais un peu post-apocalyptique et qui du coup sera remontrée ensuite à Chaumont. Puis va connaître aussi une nouvelle vie, certainement sous une forme plus happening, alors pas expo, mais forme d'happening à Formula Bulla à Paris en septembre.
Donc on se reverra début janvier 2025 pour savoir ce qui est devenu 2024.
Ouais, on va laisser encore un peu la surprise, quoi.
Bon, merci à vous deux en tout cas.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci.
Voilà, vous trouverez facilement tous les renseignements sur le web sur cette grande coïncidence 2024. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle.
Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.